Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions, ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, heure de Kinshasa.
Abus de confiance que dit la loi congolaise, il peut vous arriver de vous approprier une somme d'argent, une marchandise ou tout autre bien qui vous a été remis par une personne au terme d'un accord verbal ou écrit. Selon les experts, cet acte est considéré comme un abus de confiance. Alors on va découvrir avec Guilhem Aléré, juriste indépendant, qui est notre invité, que dit la loi congolaise par rapport à cet acte. Maître, l'abus de confiance, comment comprendre ces concepts d'abus de confiance?
Merci beaucoup Marcel, j'ai bien aimé comme vous avez défini tout à l'heure cette infraction. C'est exactement ce que dit l'article 95 du code pénal ordinaire congolais. Je cherche des mots simples, c'est tout simplement le fait d'être en possession d'un bien qui vous a été remis par quelqu'un avec des instructions précises, soit faire un certain usage de ce bien, soit le garder par devers vous pendant un temps et le remettre à son propriétaire originel. Et vous, ce bien-là, plutôt que d'en faire l'usage qui vous a été recommandé, vous vous en appropriez, vous l'utilisez à votre propre intérêt. Un cas concret, c'est lorsque quelqu'un vous remet de l'argent parce que lui n'a pas le temps de le faire, vous demande d'aller payer le Minerval de son enfant à une certaine école. Plutôt que d'aller payer le Minerval, vous prenez cet argent, vous l'utilisez à votre intérêt propre. Nous sommes là dans un cas typique, n'est-ce pas, d'abus de confiance, parce que le contrat de départ, c'était que vous preniez cet argent qui ne vous appartient pas et que vous l'utilisiez à un usage déterminé par son propriétaire, qui vous fait confiance donc. Et vous, vous abusez de cette confiance, plutôt que d'utiliser cet argent pour la destination qui a été prévue par son propriétaire, vous vous en appropriez et vous l'utilisez pour vos propres besoins. Voilà un cas typique, n'est-ce pas, d'abus de confiance. C'est donc la malhonnêteté qui est sanctionnée par la loi, en fait.
Il faudrait chercher également à établir cet abus de confiance. Et peut arriver que au départ, la personne n'avait pas l'intention de ne pas faire parvenir l'argent à l'endroit convenu ou bien à la personne convenue. Et comment établir vraiment qu'il s'agit d'un abus de confiance, les moyens d'établir cela?
Bon, il y a ce que la loi appelle des éléments matériels et un élément moral. Eh bien, l'élément matériel, c'est qu'il y ait un acte de dissipation ou d'appropriation, n'est-ce pas, de cet argent ou de tout autre bien mobilier, vous l'aviez dit tout à l'heure, qui appartient à autrui. Donc, le fait déjà de dissiper, de vous approprier de cette chose-là qui n'est pas à vous, c'est déjà un élément matériel. Mais en plus, effectivement, pour qu'il y ait effectivement infraction, il faut que dans votre chef, il soit établi que vous l'aviez fait avec une intention frauduleuse. Donc, une intention de faire du mal, de nuire à autrui, à votre profit. C'est ça que recherchent généralement les enquêteurs et les juges pour pouvoir sanctionner effectivement. Parce que vous pouvez aussi avoir de l'argent d'autrui qui vous a été confié pour une certaine mission, mais cet argent vous est volé, n'est-ce pas, ou vous le perdez. Donc, en ce moment-là, il n'y a aucune intention, n'est-ce pas, de frauder. Mais si vous le faites de manière intentionnellement frauduleuse, c'est-à-dire vous savez très bien que cet argent-là n'arrivera pas. Vous trouvez quelqu'un en train de se préoccuper sur le fait qu'il est vraiment dans la limite des délais pour faire un paiement à tel endroit, mais il ne sait pas y arriver, et vous vous proposez de l'aider en sachant dès le départ que vous-même, vous cherchez tout simplement à vous approprier de cet argent parce que vous aviez aussi un besoin à satisfaire et vous vous demandiez comment trouver de l'argent. Et donc, dès que cette personne-là vous remet cette somme d'argent, à aller remettre à sa vieille maman malade, à son enfant qui est à l'internat parce que vous-même vous y rendez, eh bien, en cours de route, vous en profitez pour acheter, je ne sais pas moi, quelque chose qui vous manquait, une batterie pour votre voiture, du carburant, etc., eh bien, c'est clairement établi qu'il y a un abus de confiance. Donc, vous abusez de la confiance, en fait, qui a été placée en vous.
Et après l'enquête, les faits sont établis que vous avez commis cet acte volontairement, c'est-à-dire qu'il est établi qu'il s'agit d'un abus de confiance. violence, alors il y a des sanctions prévues par la loi.
Exactement, et cette infraction est sévèrement sanctionnée parce que vous imaginez une société où on ne sait pas se faire confiance, eh bien c'est, il est très difficile, n'est-ce pas, de se développer, d'établir de bonnes relations dans tous les secteurs, parce que en ce moment-là, eh bien c'est la décadence en fait de la société. Et donc pour punir cette infraction, la loi est allée de 3 mois à 5 ans hein, de servitude pénale, c'est-à-dire de prison. Vous pouvez faire de la prison jusqu'à 5 ans pour avoir abusé de la confiance d'autrui, pour vous être approprié quelque chose frauduleusement qui vous a été remise pour un usage et dont vous détournez l'usage à votre profit. Donc de 3 mois au minimum à 5 ans au maximum, plus éventuellement une amende, c'est ce que dit la loi.
De 3 mois à 5 ans, alors quels sont ces abus de confiance pour lesquels on peut aller même jusqu'à écoper 5 ans de servitude pénale?
Bon, les juges apprécient, n'est-ce pas, les circonstances dans lesquelles cela a été fait, le préjudice qui a été causé à la partie, n'est-ce pas, qui est victime de ça. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, de quelqu'un qui abuse de l'argent qui était destiné, par exemple, à faire vivre toute une famille. Il y a des citoyens honnêtes comme vous, Marcel, qui, lorsqu'ils touchent leur salaire, le montrent à leur épouse. Et donc, vous trouvez quelqu'un, vous lui dites, bon, voilà, ça c'est mon salaire du mois, mais je suis pris au service, je ne sais pas aller à la maison. Vous êtes mon ami, eh bien, veuillez me faire parvenir cet argent à ma femme. Elle sait comment on le répartit, comment on satisfait à tous les besoins de la famille, les provisions, l'alimentation des enfants, le transport pour l'école, etc. Et cette personne-là détourne, dissipe tout cet argent-là. Et donc, ça fait que c'est toute une famille qui est perturbée pour tout un mois. Donc la gravité des faits est telle que le juge peut aller même jusqu'au maximum de 5 ans dans ce cas-là.
Voilà, nous avons déjà un auditeur en ligne, c'est Blanchard Luana, il appelle de Kinshasa. Blanchard, bonjour.
Oui, bonjour Marcel.
On vous écoute, Blanchard.
Oui, quand est-ce que le non-paiement d'une dette peut devenir un abus de confiance? Ça, c'est la première question. Et la seconde, comment peut-on prouver l'infraction d'abus de confiance?
Merci Blanchard. Guillaume Allaire.
Oui, merci beaucoup. On sent déjà que notre ami Blanchard est un auditeur avisé. Effectivement, dans la pratique, il y a une confusion terrible qui est entretenue entre la dette non payée ou non honorée et l'abus de confiance. La différence réside tout simplement dans un petit détail. Celui qui vous remet de l'argent, n'est-ce pas, dans le cadre d'une dette, vous le donne pour votre usage à vous. Donc celui qui reçoit les fonds, dès le départ, il est convenu que c'est lui qui va utiliser cet argent. C'est-à-dire, Jean-Marcel, vous êtes étudiant, vous venez me voir, vous me dites, je n'ai pas encore payé mon Minerval. Eh bien, je vous donne cet argent pour que vous puissiez payer votre Minerval, mais nous convenons d'une échéance à laquelle vous devez me restituer cet argent-là. Nous sommes dans une hypothèse de dette. Dans ce cas-là, même si à l'échéance convenue, vous ne me restituez pas cet argent, eh bien, il n'y a pas abus de confiance. Il y a question de dette dont l'échéance de remboursement n'a pas été honorée. Il n'y a pas infraction. Nous sommes là dans une matière qu'on appelle civile. Eh bien, ça se règle par la condamnation à la restitution de la somme qui vous a été prêtée, et puis à des dommages et intérêts moratoires, c'est-à-dire pour le retard que vous avez, n'est-ce pas, marqué dans la restitution de cet argent. Ça c'est clair. Alors, l'abus de confiance, lui, celui qui vous donne l'argent, vous le donne pour un usage en sa faveur, en faveur du donateur. Donc ce n'est pas pour votre usage à vous. Il vous le donne pour aller remettre à un membre de famille, à sa mère, comme j'ai dit, malade. Il vous le donne, vous, en tant que maçon, pour que vous puissiez acheter du ciment et, n'est-ce pas, et l'aider à construire sa maison à lui. Donc l'usage de départ est en faveur du donateur. Et vous, vous détournez cet usage-là, au lieu de le faire en faveur du donateur, du propriétaire des fonds, vous le faites à votre intérêt. Là, nous sommes dans l'abus de confiance. Et là, ça c'est infractionnel, c'est ce qui est sanctionné de 3 mois à 5 ans. Et c'est cette différence-là qui n'est pas souvent faite par certains enquêteurs, certains agents enquêteurs, etc., qui savent pertinemment bien qu'il s'agit d'une affaire de dettes non remboursées et qui vous mettent en prison ou au cachot pour des questions de dettes non remboursées. Dans notre pays, il n'y a pas de prison pour dettes. Si on vous arrête pour une dette non remboursée, on est dans un cas d'arrestation arbitraire. Les sanctions sont civiles pour la dette non remboursée, non honorée à échéance. Je l'ai dit, c'est la restitution de l'argent et éventuellement le paiement des dommages et intérêts en faveur de la partie lésée. Mais jamais, par exemple, la prison ou des amendes. Donc, il faut vraiment bien faire la différence et il est bon que la population le sache. n'est-ce pas, pour pouvoir se défendre hein, lorsqu'il est dans un cas de dette non remboursée, et se faire arrêter pour abus de confiance, c'est excessif, c'est un abus.
Guillaume Aléry, là c'est vraiment important donc, de préciser pour l'abus de confiance, il s'agit d'un bien destiné à une tierce personne, c'est-à-dire c'est pas destiné à vous-même. Prenons le cas, vous avez demandé à quelqu'un de vous remettre de l'argent pour payer par exemple une garantie locative, et vous utilisez cet argent pour payer peut-être, il a remis ça à vous, pour votre garantie locative, vous utilisez ça pour acheter peut-être une voiture, c'est pas un abus de confiance.
Non, pas du tout. Ce qui importe là-bas, c'est qu'à l'échéance, vous puissiez lui restituer son argent. Mais l'usage était, dès le départ, prévu que c'était en votre faveur à vous. Donc c'était votre bénéfice à vous. Là, c'est clair, nous sommes dans l'hypothèse de la dette.
Voilà, nous avons trois auditeurs en ligne, Justin et Aouvira, dans la province du Sud, Kivu, Victoire Ingopa, lui est à Kananga, dans la province du Kassai occidental. Roger Tchaba est également à Kananga, toujours dans la même province du Kassai occidental. On commence avec Justin Ovira. Bonjour Justin.
Oui, bonjour.
On vous écoute Justin. Essayez de parler un peu plus fort. On vous écoute.
Bonjour à notre invité Guillaume Maléré.
Merci beaucoup.
Je voudrais demander si quelqu'un est locataire dans une maison. Il en a habité longtemps. Et que les propriétaires de la maison arrivent à mourir. Et que ses enfants n'étaient pas au courant de la location de cette maison. Alors, les locataires voulaient s'en occuper de la maison où la parcelle payait pour lui. Alors, quel peut être le jugement pour celui-là qui a fait un tel acte?
Essayez de répéter. On a compris quelqu'un qui était locataire et puis le propriétaire venait à mourir et puis le locataire veut s'approprier de la maison, c'est ça?
Les locataires viennent s'approprier de la maison.
D'accord.
Comme les propriétaires.
D'accord, on a compris. Justin. Guillaume Aléry va vous répondre tout à l'heure. Victoire Ingopa, vous êtes à Kananga dans le Kassai occidental. Bonjour Victoire.
Bonjour Marcel, vous avez essayé de massacrer mon nom, c'est Victor Ingopa.
Merci, oui. Victor Ingopa, d'accord.
J'ai dit bonjour à l'invité, bonjour aussi à tous les auditeurs de Okapi Service. J'avais deux petites questions que j'avais voulu poser. Donc, des cas. J'ai un oncle, il commençait à collaborer avec un monsieur de l'église à Kinshasa. Bon. Il a pris à peu près 500 000 francs congolais. Il a donné à ce monsieur-là pour qu'il fasse des trafics parce que c'est un commerçant. Bon, il s'est attendu à ce qu'à la fin d'un mois, que le monsieur vienne lui remettre les 500 000 avec l'intérêt. Mais à notre grand surprise, nous avons remarqué que le monsieur n'avait pas donné l'argent. Alors, il venait commencer à rembourser petit à petit les 50 000, 100 000, jusqu'à tel point qu'il avait fini cette dette-là sans pourtant donner l'intérêt. Est-ce que si l'oncle saisissait le gouvernement, la loi, est-ce qu'il aurait réellement les intérêts qui s'étaient attendus avec les 10 commerçants? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que la loi protège-t-elle les filles fiancées, qui s'appellent fiancées? Et elle était avec un garçon pendant 5 à 10 ans. La fille a refusé qu'elle soit prise à mariage par d'autres personnes, tout en attendant les garçons. Et après, ce temps, les garçons vont prendre la décision de refuser la fille. Est-ce que la loi protège cette fille-là dans le cas où la fille saisit aussi la loi ou saute la justice? C'était mes deux questions.
Merci Victoire. Victor Ingopa, voilà, c'est bien dit. Victor Ingopa, vous êtes à Kananga dans le Kassai occidental. Roger Tchaba, vous êtes également à Kananga dans le Kassai occidental. Bonjour Roger.
Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capé.
On vous écoute.
Oui, ma préoccupation est la suivante. Il y a une personne dans notre quartier qui avait pris l'argent d'autrui, mais il n'y avait pas des outils ou une note qui prouve qu'il avait pris l'argent. Mais la dette fixée est déjà expirée. Mais lorsque la personne qui l'avait donné l'argent est allée demander l'argent, la personne dit « accorde-moi quelques jours ». Mais ces jours-là a été épuisé comme ça, sans toutefois remettre l'argent d'autrui. Mais la personne est allée à la justice. La crise de la personne, et lorsque la personne arrive à la justice, on lui pose la question « tu connais cet argent d'autrui qu'il faut remettre ?» La personne dit « je ne reconnais pas cet argent ». Mais lorsqu'il revient à la maison, la personne dit « je sais que j'ai ta dette, mais je vais te rembourser cela. Mais à présent, je n'ai pas d'argent. »
Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Parce que la personne, lorsqu'elle part par le sud, elle nie cet argent. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que la loi prévoit aussi concernant une telle personne qui ne reconnaît pas l'argent de l'autre?
Merci, Rougi. Guilhem Aléry va vous répondre tout à l'heure. Abus de confiance que dit la loi congolaise. Vous êtes intéressé par les sujets. Appelez-nous au 081 890 63 94 ou faites-nous parvenir un SMS au 081 711 50 01.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Guilhem Aléry, qu'est-ce que vous dites à tous ces auditeurs qui ont posé des questions sur l'argent donné sans qu'il y ait une preuve, sur quelqu'un qui remet sans intérêt?
Oui, merci beaucoup Marcel. Toutes des questions vraiment intéressantes. Je commence par celle de Justin à Ouvira, notre auditeur. Eh bien, il dit un locataire qui est sous contrat de bail avec un certain monsieur qui est donc son bailleur. Et puis le bailleur vient à mourir sans que ses héritiers n'aient su qu'en réalité, il y avait un contrat de bail entre lui et son locataire. Et donc, à la mort du propriétaire, le locataire commence à tenter de s'approprier de la maison en prétextant que, en réalité, c'était son bien à lui, peut-être qu'il l'avait acheté, etc. Alors, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'infraction d'abus de confiance, comme ça touche au crédit, donc à la confiance, eh bien, elle s'apparente à énormément d'autres infractions qui lui sont voisines, notamment l'escroquerie, notamment le stélionat, le fait de vendre un bien qui appartient à autrui, notamment les tromperies en ce qui concerne les marchandises, etc. Mais dans le cas d'espèce ici, l'attitude de l'autre, communément, on l'aurait appelé escroc, c'est-à-dire il fait croire en une qualité qu'il n'a pas. Il est locataire, mais il commence à essayer de se faire passer pour un propriétaire. Mais quand vous lisez la loi, l'escroquerie en tant qu'infraction, elle concerne des biens mobiliers, n'est-ce pas, des biens que l'on peut déplacer. C'est-à-dire, vous avez votre stylo là, Marcel, et je vous fais croire par des mécanismes d'autrui qu'en réalité ce n'est pas le vôtre, et je finis par vous convaincre, faussement, qu'en réalité c'est le mien, parce que, et puis après avoir douté, vous me le remettez en disant, bon très bien, c'est peut-être le vôtre. Donc par des manœuvres, je parviens à faire en sorte que vous puissiez me remettre votre propre bien. Là, on serait dans l'escroquerie. Mais ici, il s'agit d'une maison. Donc quelque chose qui est fixe et qui ne bouge pas. Et la personne essaye de se faire passer pour le propriétaire. Donc, ça ne correspond pas tout à fait, comme vous le comprenez, à la qualification d'escroquerie. Et donc, ce n'est ni abus de confiance, ni escroquerie. Et dans le cas là, on rentre dans les civils. Dans les civils, sur des questions des droits de propriété. Et vous savez que la propriété de la maison se démontre, n'est-ce pas, par des documents. Il ne suffit pas de se prétendre propriétaire. Eh bien, de tels héritiers, tout simplement, devront aller au service du conservateur des titres immobiliers. Et là-bas, les parcelles sont enregistrées. Et c'est très facile de savoir si la maison est enregistrée au nom de qui et l'affaire serait tranchée. Donc, nous ne sommes pas dans une hypothèse infractionnelle. Nous sommes dans une sorte de querelle sur le droit de propriété. Et donc, il suffit d'aller de démontrer que c'est indûment que la personne cherchait à s'approprier les droits de propriété sur la maison. Eh bien, elle peut être, n'est-ce pas, condamnée à des dommages d'intérêt pour tous les préjudices qu'elle vous cause, vous obligeant à aller faire des démarches auprès du cadastre et éventuellement auprès de la justice pour faire reconnaître votre droit. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, nous en profitons pour dire aux auditeurs que quand vous avez un bien immobilier, il faut vite, vite faire en sorte que vous ayez les documents, c'est-à-dire le certificat d'enregistrement, même si vos enfants ne savaient pas que les biens vous appartenaient, il suffit qu'ils aillent au service de l'enregistrement, donc du cadastre, et ils verront bien que la maison appartenait à leur père.
Alors, qu'est-ce que vous dites à Victor Ngopa, quelqu'un qui vous a remis de l'argent avec intérêt, et puis vous n'avez pas pu respecter votre parole à la date de l'échéance, vous remettez l'argent, mais sans intérêt.
Oui, donc, c'était même dans le cadre d'une église, compris. Et donc, il a même remis de manière fractionnée, donc il n'a pas respecté l'échéance, première faute. Il a été prévu que l'argent serait remis à telle date, il ne le fait pas. Mais ensuite, il le remet de manière fractionnée et s'abstient de payer les intérêts qui étaient convenus. En réalité, si cette affaire est portée en justice, nous sommes encore ici dans un cas typique d'affaires civiles. Il n'y a pas infraction d'abord, parce que c'était clair que l'argent qui lui avait été donné, c'était pour son usage à lui. Mais la condition, c'était qu'il les restitue avec intérêt. Donc, et le montant qu'il devait restituer, et les intérêts vont être considérés comme la dette. hein, principal, c'est-à-dire que le montant qu'il avait reçu plus les intérêts que ça devait générer, ça, il sera condamné à restituer tout ça. Ensuite, il pourra être sanctionné au dommage intérêt pour réparer les préjudices qui a été causé au prêteur, qui a ainsi perdu du temps. Peut-être qu'avec cet argent, lui-même aurait pu, n'est-ce pas, travailler ou tourner, comme on dit communément.
Guilhem, on va poursuivre avec vous le temps d'accueillir d'autres auditeurs qui sont en ligne. Il y a Zex Fidel qui nous appelle de Bruxelles, en Belgique, Baïziri qui est à Kananga, dans la province du Kassai-Occidental, et Moïse qui est à Boutembo, dans le Nord Kivu. Zex Fidel, vous êtes à Bruxelles, en Belgique. Bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité et bonjour à tous les auditeurs de Radio Gapi.
On vous écoute.
Je voudrais, Marcel, apporter une contribution par rapport à ce que notre invité dit.
Oui.
Mais particulièrement en donnant un cas concret que je suis en train de vivre en tant qu'avocat ici au barreau de Bruxelles. Un petit exemple. Hier, c'est ce qu'on appelait les mouboutistes, mais aujourd'hui de plus en plus, ce qu'on qualifie de kabylistes, achète des maisons ici à Bruxelles. Et donc j'ai eu au cabinet, en tant qu'avocat, une consultation parce que un monsieur qui est à Kinshasa a épousé une femme à Kinshasa sous le régime de ce que chez nous au Congo on appelle la communauté réduite aux acquins. Et puis ce monsieur a remis de l'argent à son épouse pour venir acheter une maison ici à Bruxelles. Madame arrive ici, falsifie les documents, achète l'immeuble en son nom propre et ne dit rien au monsieur. Quelques temps après, à Kinshasa, monsieur décède. Alors les enfants, sachant qu'ils ont un bien immobilier ici à Bruxelles, ils ont dit, bon, on va aussi hériter de cette maison-là. Problème, c'est que l'immeuble était inscrit au nom de madame et non pas au nom de monsieur, et ça a créé un problème. Par rapport au sujet du jour, l'abus de confiance, comme l'invité l'a expliqué, c'est de faire un usage contraire d'un bien qui appartient à un propriétaire, contrairement à ce qui était convenu avec le propriétaire. Or ici, lorsque monsieur a remis l'argent à son épouse pour venir acheter l'immeuble, il n'était pas encore propriétaire de l'immeuble, il était propriétaire de l'argent, voyez-vous. C'est ainsi qu'en droit, l'abus de confiance entre époux ou entre enfants et parents n'est pas susceptible de poursuite sur le plan pénal. On règle ça autrement, par rapport au code de la famille chez nous, par rapport aussi à ce qu'on appelle le code de DIP, le droit international privé, parce que dans le cas d'espèce, l'immeuble se trouve ici en Belgique. Les enfants sont au Congo. D'autres enfants ont acquis d'autres nationalités et sont établis ailleurs. Voilà Marcel, voilà l'invité, ce que j'avais à apporter comme contribution, surtout pour attirer l'attention de nos concitoyens qui sont au pays, qu'il faut faire gaffe par rapport à ce que l'on fait. Et surtout dans la famille, il faut de la confiance dans ce genre de situation. Merci.
Voilà, merci Jacques Fidel de votre contribution. Nous rappelons que vous appeliez depuis Bruxelles en Belgique. Merci, au revoir. Nous allons avoir Baïziré qui est à Kananga dans la province du Kassai occidental. Baïziré, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, mon nom est mal prononcé. C'est Baïs plutôt que Baïziré. C'est Baïs.
Voilà, merci, allez-y.
Ok, je résume un peu ma préoccupation en deux volets. Le premier, supposons que je viens du village et qu'un parent m'ait remis une somme d'argent qu'il doit aussi remettre à son fils. Quand j'arrive en cours de route, je dépense cet argent, j'achète d'autres choses. Quand j'arrive ici sur la ville, je revends ces histoires et je remets l'argent à la personne à qui la somme était envoyée bien sûr. Alors, j'ai le retard avec lequel j'ai remis ce que la loi dit. Deuxième volet, j'ai perdu l'argent volontairement, mais la personne qui m'avait remis cette somme-là ne comprend pas que je l'ai remis et va m'acheter. Qu'est-ce que la loi peut faire? Qu'est-ce que je dois faire? Merci beaucoup.
Merci beaucoup de Baïs. Et voilà, Maître Guilhem Allaire, il va vous répondre tout à l'heure. On va accueillir Moïse qui est à Boutembo dans le Nord Kivu. Moïse, bonjour. Bonjour Moïse. On a perdu Moïse, apparemment. On pourra le retrouver un peu plus tard. Alors, maître, comment vous commentez d'abord cette contribution de notre auditeur de Bruxelles, hein? Parce que quand ça se passe au sein de la famille, c'est vraiment curieux de savoir comment ça va se passer. Vous avez remis de l'argent à votre épouse pour un service bien précis. Bon. L'épouse ne fait pas comme convenu. Hein. Donc là, il n'y a pas abus de confiance. Bon, il y a quoi maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, d'abord, je remercie Maître Zex qui nous a appelé de Bruxelles, ce qui indique que Radio Okapi est vraiment bien suivi par les compatriotes partout où ils sont. J'aimerais dire ici qu'il a dit beaucoup de choses parce qu'il n'avait pas beaucoup de temps, mais il a précisé que le couple était marié, n'est-ce pas, sous le régime de la communauté des biens donc réduite aux acquis. C'est-à-dire, c'est les biens qu'ils vont acquérir en cours, n'est-ce pas, de leur vie commune appartenaient aux deux. Et donc, il est sous-entendu ici que lorsque la femme est allée acheter ce bien-là, elle se supposait que c'était un bien qui lui appartenait autant qu'il appartenait donc à son mari. Mais c'est au niveau de l'enregistrement qu'elle a mis son nom plutôt que celui de son mari. Mais comme ils sont sous le régime de la communauté réduite aux acquis, c'est-à-dire que même si le nom est inscrit, le bien est inscrit au nom de la femme, eh bien le mari a quand même un droit par moitié, n'est-ce pas, sur ce bien-là. Et si c'était le mari qui l'avait acheté, qui l'avait été mis au nom du mari, eh bien ce bien appartiendrait à moitié, n'est-ce pas, à l'épouse, au nom du régime de la communauté réduite aux acquis, parce que c'était un bien qui aurait été acheté en cours de la vie commune. Donc il appartenait aux deux.
Mais c'est toujours prudent de mettre le nom de tous les deux, le mari et la femme, c'est plus prudent.
Oui, bien entendu. Le problème s'est posé maintenant, parce qu'il n'a pas donné tous les détails de son intervention, il était obligé de parler de manière résumée, se poser au moment de la succession. Maintenant, vous voyez que la personne décédée, c'était qui? C'était plutôt le mari. Et donc, c'est les successibles, les héritiers qui sont venus réclamer leur part, leur quote-part sur le bien de leur papa. Mais dans tous les cas, avant de passer à l'héritage, on aurait dû, nous l'avions dit dans l'autre émission précédente, liquider d'abord le régime matrimonial. Donc, en liquidant le régime matrimonial, eh bien, à ce moment-là, on voit d'abord qu'est-ce qui appartient en propre au mari et qu'est-ce qui appartient à la femme. Et là-dedans, on aurait pu trouver, comme s'il était en situation de communauté réduite aux acquis, ce mari-là avait droit à la moitié de la valeur de la maison.
Voilà.
Et c'est cette moitié-là qui irait aux... Donc le code de la famille règle cette question plutôt bien. Voilà pourquoi vers la fin, il a dit lui-même que la solution est à rechercher, notamment dans le code de la famille.
On a des baillis qui dit qu'on vous a remis l'argent pour un service bien précis. Bon, c'est vrai que vous l'avez fait en retard, mais finalement, vous l'avez fait quand même.
Vous tournez d'abord avec un peu en route, vous faites un petit commerce avec, mais en fin de compte, vous remettez quand même au destinataire sa quote-part et vous gardez les petits bénéfices que vous avez réalisés. Il n'y a pas abus de confiance parce que la somme qui vous a été remise est parvenu à destination comme convenu. Donc le contrat de départ a été respecté, il n'y a pas abus de confiance. Là où la chose est un peu plus délicate, c'est lorsqu'il dit qu'en cours de route, il perd cet argent. Et donc quand il arrive, au lieu de remettre de l'argent au destinataire, il commence des explications. C'est-à-dire, il s'est passé ceci, un groupe de voleurs, des coupeurs de route nous a attaqués, etc. Bon, il va y avoir maintenant un problème de preuve, n'est-ce pas, de preuve de la sincérité de ses propos. Hein, il faut qu'il démontre réellement qu'en cours de route, ceci est arrivé, et notamment les témoignages, c'est un monde de preuve. Je ne sais pas si vous permettez qu'on revienne à des auditeurs qui risquent d'être frustrés, qui risquent d'être frustrés, notamment celui qui a parlé de la fiancée. De la fiancée qui, après 5 ans de fiançailles, c'était toujours, je crois, Victor, hein? Après 5 ans de fiançailles, est lâché par son fiancé. Est-ce qu'il y a abus de confiance? C'est ce qu'il voulait savoir. En réalité, comme vous savez, les fiançailles, ce n'est pas encore un engagement donc au mariage. C'est une période d'essai, si on peut ainsi dire. Et donc, les fiançailles peuvent être rompues. Et c'est le code de la famille qui règle ces questions de rupture des fiançailles en prévoyant les remboursements de certains dons ou cadeaux qui ont été faits, etc. Ça peut aller même jusqu'à un petit dédommagement s'il y a réel préjudice. Mais ce n'est pas une infraction d'abus de confiance. Vous ne pouvez pas aller en prison parce que vous avez rompu des fiançailles, Marcel. Et enfin, Roger, qui parle d'emprunter sans avoir fait une note, une décharge, et finalement, finalement, ça pose problème de preuve.
Hein. Il ne pourrait pas arriver que la personne ne reconnaît pas avoir...
emprunter cet argent-là.
Oui. Donc, c'est pour ça que je voulais dire tout simplement que dans les questions d'argent, il faut être prudent. La loi dit qu'au-delà de 1000 zaïres, à l'époque, 1000 francs, je crois, aujourd'hui, eh bien, il faut signer une décharge. Lorsque vous n'avez pas pu signer une décharge, veillez à ce qu'il y ait des témoins quand vous êtes en train de vous remettre de l'argent. Voilà ce que je voulais dire.
Voilà. Avant d'accueillir d'autres auditeurs qui sont en ligne, on va découvrir rapidement les réactions qui nous sont parvenues par SMS. Moguicho, qui est à Bukavu, il écrit ceci. Je voulais demander à notre invité, que faire si ces genres de problèmes arrivent et qui prévoient la langue congolaise? Que faire si vous êtes victime d'un abus de confiance?
Oui, il faut aller au poste de police le plus proche. Et là, il y a des agents qu'on appelle les OPJ, officiers de police judiciaire. Ils vont vous aider à trouver des solutions. Ou bien alors, aller carrément au parquet. Là, les magistrats du parquet sont des spécialistes des choses.
Freddy Coccinal nous écrit de Goma. C'est pas du tout bien parce qu'aucune loi ne peut permettre à un individu de se rendre justice. Si on se rendait justice, quel sera le rôle des cours et tribunaux? Je suis du même avis avec vous. C'est vraiment un abus de confiance. Donc, il faut aller, comme vous l'avez dit,
exact.
Voilà. Et puis il y a Kamutu Zingwanda qui est à Bukavu. L'abus de confiance est une monnaie courante ici à Bukavu et les gens ne le considèrent pas comme une infraction.
Ah, c'est dommage, là, ce n'est pas bien parce qu'à un moment donné, dans une société où il n'y a pas la confiance, eh bien, il n'y a pas commerce, il n'y a pas affaire.
Alors maintenant, prenons le cas de la personne qui a utilisé l'argent qui a été destiné à autre chose. Mais là, il faut également être prudent aussi. Il s'agit par exemple d'une personne qui est malade et qu'il faudra rapidement amener l'argent pour que la personne soit opérée et que la personne arrive à décéder parce que vous avez mis du temps pour faire parvenir l'argent. Là, ça devient un peu plus compliqué.
Ben,
vous ne pensez pas?
Non, là, c'est d'abord le droit pénal est un peu compliqué dans la mesure où le mobile, la raison qui a fait que vous avez détourné,
oui,
est inopérant. Hein, donc, ça n'enlève pas le caractère infractionnel. Et donc, il y a d'abord abus de confiance, mais le juge va tenir compte de toutes ces circonstances pour peut-être alléger, n'est-ce pas, votre sanction, plutôt que de vous envoyer en prison, vous condamner, n'est-ce pas, à une amende et vous demander de restituer la somme qui a été dissipée ou dont vous êtes approprié. Ce n'est pas parce que la raison pour laquelle vous avez détourné est noble que vous n'avez pas commis d'infraction.
On va accueillir rapidement trois auditeurs en ligne. Thomas Landaïta Isiro en province orientale, Rodrigue Goma dans le Nord Kivu, Gabriel Bumbashi dans la province du Katanga. Thomas, bonjour.
Bonjour, monsieur l'invité, ainsi que le journaliste.
Allez-y rapidement, Thomas, c'est quoi votre question?
Oui, juste une préoccupation. Quelle différence existe-t-il entre l'abus de confiance et l'escroquerie?
Merci.
Si l'invité peut nous y dire avec un exemple.
Voilà, merci Thomas.
Et quel conseil qui peut donner donc, à tous ceux qui pratiquent donc, l'abus de confiance?
Merci. Voilà, merci Thomas. Rodrigue, vous êtes à Goma. Bonjour Rodrigue.
Bonjour Marcel, bonjour à notre invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio 4.
Allez-y rapidement, on vous écoute.
Oui, ma question est celle-ci. Par exemple, moi, j'ai un frère qui vit à l'étranger. Alors, il veut venir s'installer au pays. Avant tout, il veut d'abord construire une maison, soit à Goma. Alors, il m'envoie l'argent pour que je construise pour lui une maison. Il me donne les critères, les caractéristiques de sa maison. Alors, quand je vais d'abord commencer à être en contact avec lui, je vais lui détailler la maison, je vais dire que la maison est prête, il peut maintenant venir s'installer au pays. Quand il va venir maintenant ici, il se rend compte que la maison n'est pas celle dont je lui parlais. Alors, dans ce cas, on peut encore parler d'abus de confiance. Si oui, quelles sont alors les sanctions prévues par la loi pour ce cas?
Merci Rodrigue. Gabi, vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga. Bonjour Gabi. Bonjour Gabi.
Ah bonjour.
Alors, allez-y, on vous écoute. Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps.
Oui, je voudrais poser ma petite question en intervenant avec un petit exemple pour stigmatiser.
Oui.
Par rapport à la loi. J'ai une personne qui a un bon de commande d'une société pour un service à rendre. Maintenant, la personne vient me proposer les bons de commande, mais n'a pas de moyens financiers. Je pourrais aux bons de commande en donnant des moyens financiers nécessaires. En retour, quand la société va payer, la personne va me remettre d'abord le principal et me redonner également la marge par rapport à cette opération. Maintenant, la personne effectue cette opération, mais quand la société lui paye, mais la personne détourne totalement les fonds, le capital et même le bénéfice. Et qu'est dit à propos de cet acte par rapport à la loi? Est-ce de l'escroquerie ou un abus de confiance.
Merci. Merci Gabi. Guilhem Aléré.
C'est vraiment une avalanche de questions, oui. Marcel. Je commence par Thomas Landa, qui demande tout simplement la différence entre un abus de confiance
et l'escroquerie.
Eh bien, nous avons suffisamment, n'est-ce pas, défini l'abus de confiance en disant que c'est un bien appartenant à autrui qu'on vous donne, un bien de valeur ou de l'argent ou un billet, etc., à aller remettre à quelqu'un avec un usage déterminé, convenu à l'avance, mais vous détournez cet usage à votre profit. Alors, l'escroquerie ici, c'est une infraction particulière dans la mesure où le propriétaire du bien mobilier, n'est-ce pas, vous remet ce bien lui-même. Mais à cause des fausses qualités ou des manœuvres que vous utilisez pour le convaincre qu'il faut qu'il vous remette ce bien. Par exemple, vous vous faites passer pour un agent consulaire. Je suis à mesure de vous obtenir, n'est-ce pas, un visa, parce que souvent l'escroquerie c'est dans ce domaine là-bas, pour aller aux États-Unis ou dans l'espace Schengen, parce que j'ai telle relation. Eh bien, la personne vous remet son argent, donc volontairement, vous ne lui ravissez pas. Vous remet son argent en croyant, en faisant foi, n'est-ce pas, au crédit, n'est-ce pas, que vous avez avancé, en faisant foi à la qualité que vous avez avancée et qu'en réalité vous n'avez pas. Et en ce moment-là, c'est ainsi que les gens se font escroquer. La personne peut vous faire croire qu'elle est, n'est-ce pas, enseignante dans cette école-là. C'est moi qui vais corriger, n'est-ce pas, l'examen, etc. Donc, vous lui remettez cet argent en croyant à une fausse qualité que la personne n'a pas.
Tout à fait.
En ce moment-là, c'est l'escroquerie. Et quand, finalement, vous vous rendez compte qu'il n'avait pas cette qualité, donc vous vous réveillez en retard, en fait. Ça, c'est l'escroquerie. Donc, dans les deux cas, c'est deux éléments constitutifs. Tout à fait différent, excusez-moi.
Alors, qu'est-ce que vous dites à Rodrigue Agoma? Il faudrait qu'il vous envoie de l'argent pour lui construire une maison. Et puis, il s'agit d'un abus de confiance. Quand vous ne respectez pas,
L'abus de confiance, c'est au niveau de l'argent, donc pas au niveau de la maison. Oui. Au niveau de l'argent qui vous est envoyé, n'est-ce pas, c'est pour une destination précise, construire une maison de telle dimension, de telle forme, de telle valeur. Eh bien, lorsqu'il arrive, il trouve que vous avez fait n'importe quoi. Vous aviez menti en disant qu'en réalité, je fais ceci, ceci, mais en vérifiant, il trouve que vous avez construit une petite bicoque là-bas. C'est-à-dire que le but que vous aviez, c'était de lui prendre une partie de son argent, mais en essayant quand même de lui présenter une maison. Là, vous avez abusé de sa confiance en ce qui concerne la destination de l'argent qui vous était envoyé. Abus de confiance, il faut aller devant la police, devant le parquet, et la personne sera traitée en justice et condamnée entre 3 mois et 5 ans.
Et on va finir avec Kabiel Bombashi, quelqu'un qui n'avait pas d'argent pour un bon de commande, vous lui remettez de l'argent pour faire ce qu'il avait envie de faire, mais après il ne vous rembourse pas.
Oui, nous sommes là dans un cas typique de dossier civil, encore une fois. Nous sommes dans ce qu'on appelle la sous-traitance. La sous-traitance est tout à fait, n'est-ce pas, autorisée. Lorsque vous n'avez pas les capacités de réaliser un marché qui vous a été donné, vous pouvez signer un contrat avec un sous-traitant pour qu'il vous aide d'une façon ou d'une autre, quitte à ce que le bénéfice soit partagé. C'est ce qui était convenu ici. Donc, il devait recevoir un gain du fait qu'il avait prêté, en fait, de l'argent à cette personne. Eh bien, il y a non-respect des engagements contractuels. Dans ce cas-là, ce sera au civil. On va condamner la personne à lui restituer son argent, à lui payer les intérêts qui étaient convenus, mais aussi des dommages intérêts pour les préjudices qu'il lui a causés en mobilisant son argent sans pouvoir respecter les engagements dans leur contrat, verbal ou écrit.
Guilhem Aléré, vous êtes juriste indépendant. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour répondre aux questions des auditeurs sur ces sujets abus de confiance que dit la loi congolaise. Merci beaucoup, à une prochaine occasion.
Merci Marcel, merci à tous.